Hello Camille, je suis à la gare de Toulouse après une nouvelle semaine passée dans cette ville de Toulouse. C'était une semaine où j'ai fait plein de rencontres très chouettes. J'ai ralenti un peu mon rythme par rapport aux autres périodes de résidence. Et les rencontres étaient vraiment assez touchantes. J'avais envie de t'en parler d'une de ces rencontres. Avec un artiste qui s'appelle Nicolas Dauban. Et en fait, il y avait tout un tas de hasards qui ont rajouté à cette rencontre, parce qu'en fait, du coup, c'est un artiste dont je connais le travail depuis un petit moment et que j'aimais beaucoup, et que du coup, j'avais envie d'inviter Nicolas à participer à ce projet d'exposition que je suis en train de préparer, sauf que je ne l'avais jamais rencontré. Il se trouve que Cécile Poblon du BBB, elle m'a refait une nouvelle liste d'artistes que je pourrais rencontrer sur le territoire toulousain. Et Nicolas figurait dessus, alors qu'il n'est pas du tout de Toulouse. Il vit et travaille, comme on dit, à Perpignan. Et donc je me disais, tiens, c'est un chouette hasard, il est en résidence croisée avec le BBB en milieu hospitalier, ici à Toulouse. Et donc je disais à Cécile, c'est marrant, ça tombe bien. Il fallait que justement je contacte Nicolas pour lui parler de ce projet pour lequel j'ai envie de l'inviter. Il se trouvait qu'il a participé cette année à la YAF, la Young International Art, ou Artist, je ne sais plus, la foire qui est en parallèle avec la FIAC, et Pierre, il était aussi Aya, et l'a rencontré du coup là-bas, en me disant, il m'a envoyé un texto en me disant, tiens, il y a l'artiste là que tu voulais inclure dans ton projet qui a un stand pas loin de chez moi en train d'installer, et il lui a demandé du coup son contact pour que je puisse le contacter, ce que j'ai pas pu faire parce que voilà, j'étais très occupée. Et donc voilà, donc je me disais, tiens, les choses sont bien faites, je vais le rencontrer à Toulouse. Et puis Cécile Poblon me dit, vous êtes même colocataire. Donc on a habité tous les deux dans l'appart du BBB. Donc plutôt pas mal comme début. Donc je lui ai envoyé un mail pour lui proposer qu'on se prenne un moment pour échanger autour de son travail. Et voilà, donc on a mangé ensemble un soir à l'appart avec Sandrine, une autre artiste qui est en ce moment à Toulouse, qui participe à la formation du BBB, la artiste professionnelle, ou profession artiste, pardon. Très chouette personne aussi, très chouette rencontre aussi de cette semaine. Et voilà, donc j'avais envie de te parler du travail de Nicolas, qui me touche beaucoup. Alors, par où commencer? Peut-être par... Il s'est fait connaître surtout, ou en tout cas, il a eu un succès assez remarqué avec une série de dessins, dont j'ignore d'ailleurs le titre. Ce sont des dessins qu'il fait avec de la poudre de fer sur un support aimanté. Ce sont des dessins qui figurent souvent des prisons, ou en tout cas des motifs qui sont en lien avec le milieu pénitentiaire. Il se trouve que Nicolas, il a fait beaucoup de résidences en milieu en milieu carcéral. Donc il travaille autour de la notion d'enfermement, de la prison en tant qu'architecture, mais aussi en tant que situation. Et donc ces dessins à la poudre de ferraille représentent des architectures carcérales. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que il découpe en fait dans des feuilles aimantées. Il découpe son motif, il prend une image, il la vectorise sur ordinateur, il la réduit au noir et au blanc. Il découpe ensuite le motif dans cette feuille aimantée, qu'il met ensuite derrière une feuille de dessin. Des fois, il peut aussi faire des muraux où il encastre donc ce support magnétique, il l'encastre dans le mur, il repeint par-dessus ensuite, et puis il applique cette poudre. Donc quand il fait des dessins qui sont encadrés, il le fait, le support, il est couché par terre. Il vient saupoudrer l'ensemble de la feuille de cette poudre de fer. Et ensuite, il relève le support, et là où il n'y a pas d'aimant, ça n'accroche pas. Quand c'est directement sur le mur, le geste il est différent, et c'est pas du saupoudrage, c'est vraiment de la projection. Donc il projette la poudre contre le mur, donc c'est un geste plus violent. En fait, ça donne des images qui ont un côté photoréaliste. Mais il y a une sorte de trame qui reste visible. Donc cette trame, elle vient du support aimanté. Du coup, ça donne un aspect un peu comme... Ça ressemble un peu à des vieilles photographies de journal. Donc avec cette trame de l'impression. Là, c'est une trame qui est... qui est en ligne droite, donc il y a aussi un aspect peut-être un peu d'image télévisuelle, enfin cette idée presque du balayage qui s'applique dessus. Donc il y a à la fois une grande précision dans ces dessins et quelque chose d'un peu vaporeux, d'un peu effacé, d'un peu moins bien défini. Dans ce découpage, il est ultra précis, il y en a certains, par exemple la prison, il y a une image, enfin il y en a plusieurs, mais... une dont on a parlé précisément est une image de la prison à Mulhouse, qui est un vieux bâtiment en briques. Donc il a découpé chaque brique, chaque petite ombre portée de ces briques, il a tout découpé dans sa feuille aimantée. Donc c'est un travail assez long, assez précis, qui du coup après est un peu contrebalancé par cet aspect un peu vaporeux, poudreux de l'image finale. Et ce sont des dessins qui ne sont pas faits pour durer dans le temps. Donc déjà, quand c'est des muraux, évidemment, ils sont enlevés à la fin de l'exposition, mais même ceux qui sont encadrés, il se trouve que cette feuille perd sa charge magnétique au bout d'un moment. Et donc le dessin est amené à s'effacer. J'ai lu dans son catalogue que ça prend 10 ans maximum avant que le dessin soit complètement décomposé et la poudre tombe en fait par terre. Enfin dans le cadre en l'occurrence. Quoi. Donc c'est un travail qu'il a réussi à très bien vendre, et je trouve ça assez beau aussi de la part des collectionneurs d'acheter des œuvres dont ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas la conserver. Il y a un côté certes un peu classique dans son support, le dessin, tout ça, mais il y a une idée j'allais dire performatif, mais c'est sans doute pas le bon mot, mais il y a le moment de l'application est déjà comme ça, un moment où le geste est très important, avec cette durée limitée dans le temps, c'est comme si il participait à faire s'écrouler ces murs de la prison. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que donc je te disais, il travaille autour de l'idée de l'enfermement. Mais en fait, ce qui l'intéresse plus là-dedans, c'est les moments d'échappatoire, ces moments, ces petites failles, ces petits moments de liberté. Qu'on arrive à se créer même en étant en situation d'enfermement. Et donc c'est une question de limite en fait. On travaille autour des limites, comment les repousser, comment les tordre, comment les transgresser, sachant que dans cette transgression des limites, il y a toujours en transgressant des limites, on les rend aussi visibles. Donc il y a un va-et-vient entre liberté, enfermement, brèche dans les murs, mais qui restent des murs pour autant. Donc c'est assez beau. Il a fait d'autres boulots, un boulot qui était d'ailleurs celui pour lequel moi j'avais envie de l'inviter, même si je vais lui proposer une nouvelle production. Enfin, il faut qu'on en parle, je sais pas encore. Mais c'est une pièce qui s'appelle Prohibition. Et cette pièce est... elle a été exposée à plusieurs reprises, donc à différentes formes. En gros, il y a des étagères et des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau minérale. Ces bouteilles d'eau, il est rempli d'un mélange de fruits pressés, écrasés, de mie de pain et d'eau, et de sucre. J'ai un doute tout d'un coup, je ne suis plus sûre sur la mie de pain, d'où ça me vient, mais bon, j'ai dû le lire quelque part. Et en fait, c'est un mélange que les prisonniers préparent et font fermenter ensuite. Donc c'est leur manière de produire de l'alcool en prison, ce qui est évidemment interdit. Et ils ont une technique un peu particulière pour ce processus de la fermentation. En fait, il faut que le liquide reste dans un contenant fermé. Sans appel d'air, donc il faudrait boucher les bouteilles, sauf que l'action de la fermentation produit du gaz, donc les bouteilles gonflent et donc risquent d'exploser. Donc les prisonniers, ils ont trouvé un système pour maintenir à la fois l'air dans le même contenant tout en lui laissant la possibilité de s'étendre. Et donc en fait, ils mettent des préservatifs à la place du bouchon, ils mettent des préservatifs qui se gonflent donc au fur et à mesure du processus de fermentation. Et donc l'installation Prohibition, c'est donc des étagères. Alors il y en a plusieurs au moins, ça dépend des endroits à chaque fois. Des fois c'est en vitrine, des fois c'est juste dans une salle pas enfermée. Et c'est presque un travail de peinture parce qu'il y a donc différents coloris, des liquides plus rouges, d'autres plus jaunes et tout ce qui est un peu entre les deux. C'est une pièce qui parle évidemment de ce moment de l'ivresse, donc une sorte de substitut d'un moment festif et d'un moment aussi d'état second, en fait, cette idée de l'ivresse qui est un moment où on s'échappe aussi de l'enfermement de notre corps, qui est très importante. Et Nicolas, il m'expliquait, donc c'est une pièce qu'il a donc produite, enfin voilà, il a en prison, en travaillant en prison, il a donc, les prisonniers lui ont montré cette manière de faire. Et il disait que c'est un moment qui est, en fait il y a un rapport au temps là-dedans, encore une fois, bah, évidemment parce que c'est une pièce qui évolue pendant son exposition, mais aussi quand les prisonniers préparent ça, ils préparent, genre par exemple, ils se disent « Ok, tel jour, c'est mon anniversaire, donc il faut que je commence à lancer le processus de fermentation à tel moment pour que ce jour-là, on puisse boire, enfin consommer cet alcool. » Donc il y a une préparation longue, une espèce d'attente d'un moment précis et tout ce rapport au temps qui est distordu, qui est à la fois long et ensuite très rapide parce que du coup ils boivent ces mélanges cul sec pour en amplifier l'effet. Voilà, donc c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, donc moi je l'invite sur ce projet curatoriel qui tournera autour de la notion de la fête. Alors on peut se dire que c'est une manière un peu glauque peut-être de considérer la fête, ou même peut-être contradictoire de que cette idée de l'enfermement et du milieu carcéral intervienne dans ce projet-là, mais au contraire, je trouve que la fête est un milieu fermé aussi. On est invité ou on n'est pas invité, on maîtrise les codes. Une fête obéit toujours à tout un tas de rituels et de protocoles qu'il faut maîtriser. Et donc, c'est un moment qui soude un peu des communautés, qui... des identités collectives, est un échappatoire évidemment de notre vie quotidienne, de notre routine et notre train-train. Donc il y a quand même énormément de parallèles à faire avec le travail de Nico et aussi toute cette idée des limites qu'on tord, qu'on transgresse, le renversement des valeurs qui in fine sert à mieux asseoir en fait un système et un pouvoir en place. Et Et écoute, j'avais envie de te parler de ce travail parce qu'il m'a beaucoup touchée. Il va avec aussi la personne de Nicolas qui est. En fait, il y a dans le catalogue que j'ai eu, il y a un texte de Camille Paulhan qui est vraiment bien sur son travail et qui. Elle commence par dire qu'on pourrait croire au premier abord que c'est un travail extrêmement viril qui parle de la masculinité, d'un travail. Parce qu'il faut savoir qu'il a travaillé aussi autour du sport, donc il a fait quelques pièces autour du cyclisme et aussi une pièce autour de la course automobile. Toujours dans cette idée de pousser ses limites corporelles et physiques plus loin, de se dépasser soi-même, de se créer cet échappatoire, cet état second qu'on atteint aussi dans le sport extrême, un jeu avec le danger évidemment aussi. Et en fait, toutes les pièces de Nicolas sont liées à son histoire personnelle, qui est assez dure, il a des problèmes de santé plutôt importants, donc il a eu une grève des reins après avoir fait 5 ans de dialyse de ses 18 ans à ses 23 ans, donc période en plus où on a d'autres envies que de se retrouver rattaché à l'institution hospitalière de manière forcée, régulière dans le temps. Il a perdu ses parents aussi très tôt, donc il y a une histoire très douloureuse qui intervient et donc Camille Paulhan, elle dit très bien dans son texte, elle commence par dire on pourrait croire que c'est un travail comme ça autour de l'effort physique, de la démonstration de force, tout ça, mais en fait pas du tout, je sais pas comment dire, ça va bien avec sa personne parce que Nicolas c'est quelqu'un d'assez grand et de costaud. Et en même temps de très fragile et de très sensible. Donc, et tout ça, ça se ressent dans son travail. Il y a une énorme finesse dans son travail, une colère en même temps. Enfin voilà, il y a une espèce de va-et-vient comme ça entre des sentiments, des émotions assez opposées et qui se rejoignent dans ces pièces qui sont toujours. Sont toujours pensés jusque dans leurs détails, jusque dans la présentation qui est très belle et donc voilà, donc c'était une chouette rencontre. On s'est vu quasiment tous les jours de cette semaine parce qu'on habitait ensemble, puis on a bu des bières ensemble, et puis il m'a raconté toute son histoire familiale qui m'a complètement chamboulée et voilà, donc j'avais envie de partager ça avec toi. Je pourrais aller plus loin dans la description, mais je vais le laisser comme ça. Peut-être que tu auras l'occasion d'aller voir un peu son travail sur Internet. Et voilà. Et je voulais te dire aussi que la dernière fois, je t'ai parlé de la présentation, des présentations que j'ai lues. Je voulais la faire à Benoît Sansfourche, dont je t'ai déjà décrit deux fois des performances. Et je pense qu'il y a beaucoup de résonance entre ton travail et le sien, et j'avais très envie de vous faire vous rencontrer un jour. Et j'avais envie de lui faire la présentation, des présentations que j'ai oubliées, parce qu'on avait papoté, voilà, je sais pas, à la fin j'avais oublié. Donc je songe à lui la faire en enregistrant une vidéo. Donc un peu comme les enregistrements que je te fais, mais comme il y a les gestes qui sont importants, je me disais que j'allais me frotter à cet univers YouTube et tout ça, mais qui est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, de peut-être passer aussi à l'enregistrement vidéo de ces descriptions, voir ce que ça rajoute, et peut-être jouer aussi justement avec cet univers des YouTubeurs, où c'est plutôt des espèces de tutos de maquillage et de choses comme ça, mais aussi évidemment un domaine où il y a beaucoup de toute cette idée de la stand-up comédie qui intervient, donc qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je songe à lui enregistrer ça et puis à le poster sur mon blog, donc je te donnerai des nouvelles de ça aussi. Allez, je te laisse, je vais aller prendre mon train. Je t'embrasse, Camille. Ciao.